Voilà, je vous propose d'éteindre vos lumières et nous pourrons rallumer nos lumières au moment de la préface de la prière eucharistique. Nous entrons dans le grand mouvement. La lumière, ça veut dire que le Christ est la lumière, hein, ce que dit Siméon, hein, lumière pour éclairer les nations. Et du coup, ta parole est une lumière sur ma route. Et donc j'ai trouvé que c'était bien qu'on garde la lumière jusqu'à l'Évangile inclus, pour bien qu'on prenne conscience que le Christ, eh bien, à travers sa parole, est cette lumière. Mais il est aussi lumière à travers les sacrements. C'est pour ça qu'on ouvrira. Steve nous allumera à tous le cierge là, puis ça se diffusera. Voilà, vous ferez ça vous-même. Alors, c'est une fête aujourd'hui avec trois événements qui sont liés. Dans la tradition juive, donc, il y a la purification de la mère, le rachat du fils premier-né par un sacrifice, et puis la présentation de Jésus au temple. En fait, ça fait beaucoup de choses, hein, en un même jour. Alors, en réalité, la purification de Marie, comme le dit le Lévitique, on n'en parle pas tellement dans l'Évangile. En fait, tous les rites de l'Ancien Testament, on n'en parle pas dans l'Évangile. On vous dit, suivant la loi, ils vont offrir, etc. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de zoom sur l'action. On a plutôt un zoom sur ces personnages qui découvrent le Christ, qui sont saisis par le Christ, qui est le Messie attendu. Donc on ne voit pas tellement les acteurs vivre la loi. On voit plutôt des gens qui sont saisis par celui qui entre dans le temple, voilà, et qui est ce Messie tant attendu. En réalité, c'est un petit peu comme le baptême de Jésus, de même que Jésus n'a pas besoin d'être baptisé, mais c'est plutôt lui qui purifie les eaux. De même ici, Marie n'a pas tellement besoin d'être purifiée, parce qu'elle est l'Immaculée Conception, mais c'est le Christ, la Vierge Marie, qui en entrant purifie le temple et purifie le monde. C'est toujours inversé dans ces mouvements. Je voudrais juste pointer sur du coup le rachat, l'offrande du premier-né qui va se transformer en présentation du premier-né. Dans la tradition juive, donc l'enfant devait être racheté avec 5 cycles d'argent. Pourquoi ? Parce que le premier d'une famille appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Et du coup, on va donner une somme, en quelque sorte, pour le reprendre. Pourquoi il appartient à Dieu ? Parce que Dieu nous a sauvés des eaux et de la mort. Je vous cite l'Exode. « Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, tu céderas au Seigneur tout être sorti le premier du sein maternel. » Homme et bête, lorsque ton fils te demandera que signifie ceci, tu lui diras, c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir, le Seigneur fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte. C'est pourquoi je rachète tout premier-né de mes fils. Voilà, en quelque sorte, on a été sauvés des eaux en sortant de l'Égypte. Et donc, comme on a été sauvés des eaux, en fait, on aurait dû mourir tous. C'est un peu un miracle. Et comme donc on a été sauvés, eh bien, en fait, on appartient à Dieu. Imaginez, vous soyez sauvés des eaux. Quelqu'un, en ce moment, il y a des catastrophes naturelles à droite à gauche, un avion qui se scrache, etc. Bon. Imaginez quelqu'un vous sauve de la mort. Spontanément, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Eh bien, tout lui donner. Je t'appartiens. Tu m'as tellement donné, mais comment te remercier ? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Toi qui es venu me rechercher, et puis en plus, si c'est un salut, imaginez, qui a coûté énormément à la personne, au point que peut-être elle est même passée par la mort. Comme le Christ nous a sauvés, il est passé par la mort. Et il est ressuscité. Enfin, il était jusqu'à la mort. Un peu comme un Maximilien Kolb donne sa vie pour sauver un père de famille en camp de concentration. Qu'est-ce que vous avez envie quand vous êtes libéré? Vous avez envie de donner votre vie. Vous dites, mais je m'appartiens plus. J'ai tellement reçu d'amour que je ne peux qu'aimer et m'offrir en hostie vivante pour les autres, pour l'autre, s'il est encore là, je ne sais quoi. Il y a quelque chose de naturel. Donc, la conscience juive, c'est nous avons été libérés d'Égypte et donc le premier-né, il appartient à Dieu. Et donc, vous avez par exemple le petit Samuel, vous savez, qui est dans le temple et qui appartient à Dieu, donc il reste dans le temple. Et il y a le prêtre Élie qui l'éduque. Vous avez toute la tribu de Lévi où eux, ils n'ont pas besoin de faire ce rachat parce qu'ils sont au service du temple, donc ils appartiennent à Dieu. Mais comme on ne peut pas tous être au temple, compliqué, parce qu'il se fait beaucoup de prêtres, et donc on rachète en disant, on fait une offrande, et comme ça, l'enfant, il redevient dans le monde, voilà. Il ne va pas être au service du temple, il y a quelques exceptions, hein, comme un Samuel, mais il va être dans le monde. Et on signifie cette gratitude par une offrande, 5 cycles d'argent. Ça va ? Bon. Donc, pour nous, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire de prendre conscience que, en fait, nous appartenons à Dieu. Oui, ce n'est pas « Seigneur, rentre dans ma vie pour que mes affaires fonctionnent », mais « Seigneur, je t'appartiens ». C'est pas pareil. Vous avez des prières comme ça chez les saints, je pense à Charles de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. » Etc. Saint Ignace a la même chose, vous savez, dans son grand texte sur le discernement. Il dit, voilà, l'homme, il est fait pour louer, pour révérer Dieu. Et pour cela, il doit se rendre indifférent à toute chose, c'est-à-dire que toute chose soit à son service, mais lui, au service de Dieu seul. Donc ça veut dire que naturellement, le chrétien pense à une consécration totale à Dieu. Le chrétien normal, celui du 2 février, c'est celui qui pense que toute sa vie appartient à Dieu. Et c'est pas Dieu fait partie de mes activités. Non, c'est j'appartiens totalement à Dieu. Alors, les conséquences pratiques, c'est évidemment de prendre conscience que l'autre, ça soit une personne ou un objet, ne peut pas nous combler. Seul Dieu peut vous combler. Pourquoi ? Ben parce que tu appartiens à Dieu. Si Dieu te demande tout, c'est ça qu'il dit. Moi, je suis un époux jaloux, je veux tout, je veux ta personne totale. Pourquoi il demande tout ? Parce qu'il est le seul qui peut nous combler. Sinon, il ne demanderait pas tout. Ça s'appelle un despote, je sais pas quoi. Mais c'est-à-dire que votre conjoint, pour ceux qui sont mariés, ne peut pas vous combler. Vos enfants ne peuvent pas vous combler. Vos biens ne peuvent pas vous combler. Vos richesses ne peuvent pas vous combler. Et c'est pour ça que c'est aussi la fête de la vie consacrée. Parce que les consacrés, c'est des gens qui ont fait vœu de célibat et dans une certaine pauvreté. Et c'est pas la fête du sacerdoce, le 2 février. Sacerdoce, bon, moi j'ai tout donné, mais enfin... je reçois beaucoup d'applaudissements régulièrement parce que j'ai des paroissiens très gentils. Mais vous voyez, je suis pas un moine. Le moine, par exemple, il est tout seul. Monos, il est tout seul. En pleine Chartreuse, en plein hiver, il met du bois. Puis il fait des sandales. Bon, vous voyez, il a pas tous les applaudissements du curé de Saint-Laurent. Donc il est vraiment dans une pauvreté. Et là, s'il reste dans le même monastère toute sa vie, parce que, évidemment, le vrai monastère, c'est le monastère où vous faites vœu de stabilité. Vous n'êtes pas excité par rapport à la prochaine nomination. Le prochain monastère que je vais quitter dans 6 ans, je change. J'aurai peut-être une cellule à 2 niveaux parce qu'ils mettent le lit au-dessus, donc c'est plus sympa. On peut avoir le bureau en bas. Non. Il n'y a pas de nouvelle cellule duplex. Donc vous êtes dans fidélité et du coup vous témoignez que quand vous n'avez rien, vous avez tout. parce que vous avez Dieu et la joie sur votre visage. Donc ça, c'est la première chose. Nos amis, rien ne peut nous combler sauf Dieu seul. Et du coup, pour nous, c'est, vous voyez, je vois une personne, c'est difficile de juger, mais vous voyez, la différence entre la générosité et le don de soi. La présentation de Jésus au temple, c'est ça en fait. On vient pour un rite. Bon, mais en fait, en réalité, comme dit la deuxième lecture, en réalité, c'est pas vraiment ce rite qui se passe, parce que c'est déjà Jésus qui s'offre. Donc, c'est pas tellement les parents qui reprennent l'enfant, c'est plutôt les parents qui le donnent. Et Simon dit, tu sais, toi, Marie, un glaive va transpercer ton cœur. Et lui-même, il va être en but à la contradiction. En fait, il est offert. Et donc, une personne offerte, comme Jésus est offert à son baptême, comme Jésus est offert le 2 février là, au temple, c'est une personne qui est dans une grande disponibilité aux événements et aux personnes. Vous avez des personnes, par exemple, dans l'offrande de leur vie, elles veulent bien faire des choses pour les autres, quand elles veulent, de manière qu'elles le veulent, au moment qu'elles le veulent. Ça, c'est la générosité. Le don de soi, c'est quand on vous demande au mauvais moment, c'est la mauvaise personne qui vous le demande, vous l'aimez pas trop, et la chose que vous n'avez pas tellement envie de faire, et qui vous dit, est-ce que tu serais disponible pour ceci, pour cela? Et là, la personne, elle va dire oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, mais il y a chez elle, vous voyez, une sorte de oui habituel. Eh bien là, vous voyez la marque, et ça peut être des personnes, tous les états de vie, ce n'est pas que les consacrés, mais c'est très vulgaire quand les consacrés ne disent pas oui. Eh bien la marque du don de soi, c'est en fait, évidemment que je dis oui. Je dis oui en premier, puis je réfléchis après. Mais mon premier mouvement, c'est oui. Et donc, est-ce que vous voyez, dans notre vie, nous sommes encore dans la générosité, ce qui est pas mal, parce que la générosité, mais la générosité, on maîtrise. Je donne quand je veux, un peu le superflu, etc. Le don de soi, c'est offrez-vous en hostie vivante. C'est autre chose, vous voyez. Donc ça, c'est une première chose, passer de la générosité au don de soi. Puis la deuxième chose, c'est il me semble, le don de soi, c'est aussi le don de ses pauvretés. C'est-à-dire qu'au début de notre vie, nous donnons plutôt ce que nos richesses. Il me semble qu'à la fin de notre vie, alors la fin, c'est une petite Thérèse, elle a vécu 24 ans, donc la fin est arrivée assez vite. Mais à la fin de notre vie, c'est-à-dire quand nous avons pris conscience, quand nous sommes entrés dans une plus grande sagesse, nous offrons nos pauvretés, nous offrons nos limites. Vous voyez, parfois un prêtre qui quitte le sacerdoce, c'est parfois un prêtre qui découvre une limite et qui dit, en fait, c'est pas possible. Alors, une limite qui peut être de l'ordre du péché, et une limite qui peut être une limite. Je pensais que j'étais bon pour, je sais pas quoi, faire ceci, faire cela, puis j'y arrive pas. Je pensais ceci, j'y arrive pas. Notre couple, je prends l'exemple d'un couple, vous voyez, qui à un moment donné va vivre une crise. Eh bien, au lieu de penser que la crise est le signe qu'on n'est pas fait pour ça, qu'il faut reprendre sa vie, la crise, elle peut être le passage à une vie surnaturelle. On va plus donner à l'autre notre richesse, on va donner à l'autre notre pauvreté. Tu vois, mon chéri, ma chérie, en fait, ce qui nous rejoint en ce moment, ensemble, en fait, c'est que on ne sait pas s'aimer. C'est que c'est difficile. Eh bien, ça va être la matière de notre offrande. On ne va pas dire simplement, comme Pierre, au début de sa vie, « Ah, moi, Seigneur, je vais jusqu'au bout !» T'aider, je ne t'abandonnerai jamais, je serai fidèle. Ça, c'est le jeune Pierre dynamique. Le jeune Pierre de la générosité. Et Pierre, il va découvrir sa misère. Je ne sais pas aimer. J'ai renié le Christ. Et Jésus lui dira, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux bien offrir ta vie? Est-ce que tu veux bien être berger dans mon église? Tu veux bien? Mais je peux pas, Seigneur, je suis trop pauvre. Pas moi, lui, l'autre. Mais c'est toi que je veux. Tu as fait l'expérience de ta pauvreté. Et donc tu as fait l'expérience de ma miséricorde. Alors tu es le parfait outil pour témoigner aux hommes de ma miséricorde. Voyez? Donc, demandons cette double grâce, voyez, la grâce de passer de la générosité au don de soi. C'est-à-dire, Seigneur, on peut me dépouiller, et si on me demande mon manteau, je donnerai ma tunique. Et en plus, si c'est mes ennemis qui me demandent ma tunique. Parce que c'est un père du désert, un père du désert. Un jour, il se fait voler. C'est les moines, ils sont dans la petite cellule. Et puis, il y a un voleur qui arrive. Alors, il lui pique le manteau. Et le père du désert, le moine, il dit, écoutez, prenez la tunique. Mais pourquoi vous me donnez votre tunique? Parce que c'est marqué dans l'évangile, quand on vient de voler ton manteau, donne aussi ta tunique. Donc, voilà, en demandant cette grâce-là, de pouvoir donner au-delà de... voilà. Et puis demandons la grâce de donner notre misère comme la matière pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous.